Muito prazer, Labux.
Voilà. Cher Antonio Tabucchi, moi, je vais vous passer la parole. Je suis là vraiment pour décoration. Enfin, encore que. Je suis même pas sûr. Il est convenu de parler en français. Alors, est-ce que vous pensez qu'on y arrivera, hein?
Oui.
D'accord.
Oui,
voilà.
J'essaie.
Traduire. Vous serez aussi traducteur, Antonio. Oh, c'est formidable.
Je m'excuse, mon français est très, très mauvais, hein, quand même.
Non, mais non, c'est pas vrai.
Quand même, on comprend.
À Cannes, vous avez fait un discours en français magnifique.
Non, non, mais le français, c'est une autre chose. Ça, c'était écrit.
Ah, c'était écrit?
Oui.
Et là, vous n'avez rien écrit?
Pas écrit rien.
Ah, moi, je crois que vous
alors,
aviez écrit quelque
chose. Il
faut
inventer le, bon, le français.
On se lance, on y va, on verra.
Bon. si vous permettre. Je dis quelque chose sur le film que vous avez vu. C'est un film muet. Et après, faire la musique. C'était fait en 1929, mais le photographe, c'est un ami, un vieil ami. Et je cherchais quelqu'un pour faire la photographie. Quelqu'un qui avait une machine. J'ai trouvé quelqu'un qui avait une machine 16 mm. Et j'ai fait un petit essai avec lui. Il ne voulait pas continuer. Et j'ai trouvé par hasard ce bon ami que je ne savais pas qu'il faisait de bonnes, très bonnes photographies. Il travaillait dans une banque, mais il est amateur de photographie. Il fait de très beaux photographies. Qui a envoyé à l'étranger et a gagné beaucoup de prix. Je lui parlais que je suis en difficulté de trouver quelqu'un, je ne savais pas qu'il fait des photos. Il m'a montré, ouvre la porte-monnaie, et montré les photos, et je suis étonné avec la qualité des photos. Et j'ai eu cette grande chance de trouver un photographe. Je viens de faire, beaucoup après, des films où je fais tout, même la photographie. Mais mon maître de la photographie, c'est lui. Et j'ai cette chance pour mon premier film. Et vous pouvez, comme vous venez de voir, des images magnifiques. Je l'ai choisi, je l'ai dit, c'est photographié, mais le cadrage, c'est un kinamu. Portatil. Alors, je ne peux pas corriger, mais suggérer ça ou ça, mais la qualité photographique, j'ai eu ces grandes chances. C'est très, très, très important. Et le film, c'est muet. Le philosophe, il disait, on ne peut pas penser sans une image. Alors, les images de ces films sont la parole que nous n'entendons pas. Voilà. Merci beaucoup. Ça va?
Bon, alors, on pourrait... bonsoir à tous. On pourrait continuer avec, disons, on commence. On peut commencer notre... colloque, notre conversation avec justement ce film, et en ajoutant quelque chose que vous n'avez pas dit, parce que dans votre modestie est magnifique, vous avez omis que votre premier critique a été un critique d'exception, Luigi Pirandello, lequel a vu votre film presque par hasard, comme il arrive pour les choses importantes de la vie. Il était à Lisbonne, l'invité d'honneur d'un congrès international de la critique, et à la soirée de l'inauguration ont été projetés deux films, un film traditionnel et un peu pompeux, disons, comme au Portugal on l'aimait à l'époque, d'un cinéaste célèbre au Portugal à l'époque, à Sévère. La biographie romanesque d'une mythique chanteuse de fado de la fin du 19e siècle. Et votre film, hein, un documentaire indépendant, il faut le dire, car il avait été produit par votre père, filmé avec des moyens très domestiques, comme vous l'avez dit maintenant, mais d'une manière très très moderne et avec un montage étonnant pour l'époque. Émile Wuillermoz, les critiques français, une autorité de la critique, hein, qui était présent au Congrès, a écrit quelques jours après une chronique, une recension enthousiaste du film. Donc la France vous a reconnu tout de suite. Voilà. Mais le premier critique en absolu a été, comme je disais, Luigi Pirandello. Il était dans une loge en compagnie du journaliste et écrivain Carlos Queiroz, qui faisait les comptes rendus du congrès pour l'illustration. Hein? Oui, dites.
Carlos Queiroz était la sœur de la amoureuse de Fernando Pessoa.
Oui, c'était son neveu, voilà les choses, oui. Et Pessoa l'avait un peu pris sur sa protection aussi. Et oui, parce qu'il a aidé à publier le premier poème. Il est devenu poète aussi, Carlos Queiroz. Oui. Bon, mais les critiques portugais, hein, et ça c'est Carlos Queiroz qui le raconte dans le compte rendu qu'il fait dans l'illustration. Les critiques portugais officiels, disons, présents en salle, et les invités du gala, hein, ont accueilli votre film avec quelques sifflements de désapprobation. Pirandello a dit à Carlos Queiroz, tout ça vient dans son article, « Mais il s'agit d'un très beau film. Pourquoi cette réaction ?» Ils ne l'ont pas aimé, un point c'est tout, a répondu le journaliste. Et Pirandello, le monde est plein d'idiots.
Le monde est plein d'idiots. Ah oui.
T'as cher de stupides.
Ben, il y a une autre chose, c'est pas celle-là.
Oui. Oui, allez. Je ne sais pas. Dites.
Non, c'est que Pirandello, on dit qu'il a dit la loge à quelqu'un, peut-être à Queiroz, et s'est demandé si c'est l'habitude des Portugais applaudir avec les pieds.
Bon, vous aviez 20 ans à l'époque.
Oui.
Vous étiez un homme sportif. Vous faisiez des courses en automobile. Vous aviez eu une enfance aisée, fils d'un industriel libéral de Porto. Eh bien, Manuel, s'il vous plaît, parlez-nous de cette époque. Racontez-nous quelque chose. Comment le cinéma est entré dans votre vie? Et comme vous êtes entré d'une façon tellement insolente, je dirais, dans l'histoire du cinéma.
Bon, ça s'est passé à longtemps. Il y a beaucoup de temps qui a passé.
C'est aujourd'hui.
Oui, c'est aujourd'hui. Mais pendant que je filmais, j'ai trouvé des amis qui sont des intellectuels, jeunes intellectuels, qui sont encore dans l'université pour terminer son cours, comme Casais Monteiro, Zerrej après, Luís de Freitas Branco, ce qui a inspiré le Anaraki Bobo, je ne me rappelle pas le nom maintenant. Je suis un très mauvais élève dans l'école et dans les collèges et tout ça. Et même à la maison, quand mon père a invité des professeurs pour nous enseigner. Mais ça m'a aidé à me cultiver. Ce contact avec des intellectuels. J'ai passé tout le temps jusqu'à aujourd'hui avec des grands intellectuels. Et ils sont, sans voler, ils sont vraiment mes professeurs. Et je suis son élève. Et aujourd'hui, c'est même encore, il y a un historien que j'appelle toujours pour quand le film touche le côté historique, pour me donner les éléments corrects. Et mes films, à cause de ça, les films dans le point historique, ils sont absolument corrects historiquement. Et je fais la question comme je respecte complètement, je ne vais pas faire de petits changements, mais l'esprit d'un ouvrage que j'adapte au cinéma, je le conserve en totalité. Et surtout, si l'auteur n'est pas déjà vivant, alors le respect doit être plus fort. S'il est vivant, je peux changer plus, discuter avec lui, tout ça, c'est plus facile. Mais et je connais à ce temps, par les livres des petits, parce qu'il y a la censure, c'est pas facile, mais on lit Ziegfeld, Eisenstein, Plotkin, et je connais cette théorie de montage parce que Eisenstein, c'est la première personne qui fait en ordre la théorie de la montage. Mais le premier mouvement de la montage, c'est français, avec Abel Gance, avec le film La Roue, que je n'ai pas jamais vu. Mais je sais que c'est lui qui a fait avec La Roue le premier montage. Mais la théorie de la montage, le premier à le faire, c'est pas Ziegfeld, qui fait beaucoup de montage à laser, mais c'est Eisenstein. Et je connaissais, c'est très influencé pour ça, et j'ai essayé de mettre cette théorie eisensteinienne dans le film lui-même que vous venez de voir, avec la mer, la roue, tout ça. Enfin, c'est une tentative qui arrive ou n'arrive pas, c'est secondaire, mais l'intention, le propre mouvement, c'est cela. Ce film, indépendant de tout, sa qualité ou non cinématographique, c'est un document extraordinaire, parce que ça, heureusement, n'existe plus. Parce que ça, ça semble des esclaves, un travail absolument nul et forcé. Et j'ai pensé en faire un autre film ensuite, mais je n'ai pas trouvé de moyens. Ça, c'est financier, c'est pas vraiment produit pour mon père, mais financier pour lui. Il a acheté la machine, il a acheté la pellicule, et j'ai monté dans la salle de billard qu'il y avait à la maison. Je tourne à elle, pas d'autre machine, et terminé pour représenter avec sa doigt Antonio Lopes Ribeiro, que j'ai envoyé la pellicule à révéler à Lisbonne. Il voyait les images et j'ai parti avec des amis pour faire une compétition sportive. Le championnat des clubs d'athlétisme, et l'emprévère était à la station, il attendait, il m'a trouvé, il dit, s'est présenté, je suis tel, et il m'a dit, il faut présenter ce film au 5e congrès qui est proche, et je ferai le possible. Il dit, non, vous allez faire l'impossible. Il s'est resté à Lisbonne avec des moyens plus rapides pour terminer le montage. Et la chance, je le dois ça à la cinquième
congrès de la critique dramatique et musicale.
Dramatique. Oui. Alors, ce n'est pas Jean Villermousse qui a fait une critique très favorable au film. Il m'a parlé même avec la traduction de Lope Ribeiro, qui était à côté, parlait bien le français. Et c'est un homme à ce temps-là, c'est un pas de gauche, beaucoup de gauche. Et il a entrevisté Einstein, il a fait beaucoup de. Mais après, il s'est adressé au fascisme, à Salazar, et fait des films. Mais c'est un homme intéressant, et assez intéressant quand même. Mais elle a passé d'un côté à l'autre. Mais enfin, elle a fait après le producteur de la Ricky Bobo. Enfin, c'est une autre histoire. On ne va pas prendre plus de temps.
Très, très bien. Et Emmanuel, vous avez une chose à propos de cette époque. Vous avez suivi aussi des cours d'art dramatique pour devenir comédien. Vous avez eu comme professeur un Italien qui vivait au Portugal.
Oui.
C'était quoi? Est-ce que vous pouvez nous le raconter?
C'est pas, on compte ça, mais c'est Rino Lupo. Rino Lupo a fait le Miracle de Fatima.
Uh-huh.
C'est un film avec beaucoup de succès, mais dans l'Invicta film. Mais après, il a difficulté de l'argent. Je pensais déjà en filmer, et j'ai parlé avec lui, il fait des films assez calmes, très peu de mouvements de caméra, et je suis influencé pour Einstein et la théorie moderne. Et tout ça, Buñuel, qui vient dans les livres, non, et pas en voix, et là, l'avance, la modernité, l'avant-garde française, et tout ça, j'ai parlé, j'entends parler, mais je ne connais pas les films. Enfin, et ça m'a influencé beaucoup. J'ai fait des essais de reprendre techniquement ou expressivement dans le propre film, marquer un peu la théorie. C'est une tendance. Mais Villermousse a parlé très bien et Pirandello aussi. Si n'arrive pas cette chose, j'ai fini dans 7 jours. Alors je ne peux pas oublier ce moment. Et il y a un deuxième moment, c'est l'amour de perdition. L'amour de perdition, c'est un désastre au Portugal aussi.
Ah.
Et après, il vient en France. Et ça a monté beaucoup. Et tous les journaux ont parlé avec enthousiasme. Et le film a retourné au Portugal avec les gens à crédit. Parce que c'est des moments sont dans mon cœur. Et c'est m'a donné la continuité. Sinon, je crois que c'était fini. Alors, j'ai la France dans mon cœur. Voilà.
Très bien. Manuel, quand vous avez commencé à parler, vous avez dit une phrase, vous avez dit les paroles, ce film est muet. Mais les paroles sont les propres images. Hein? Ça, c'est une phrase très intéressante. Et, mais à propos de la voix, hein? Vous avez fait beaucoup vous avez donné beaucoup d'interviews. J'ai lu que vous avez fait des affirmations très, très intéressantes sur la voix humaine. Hein? Je cite quelque chose. Vous dites, le cinéma est un système de fixage audiovisuel. Et donc, je crois qu'il est légitime de fixer la parole, le discours, au même niveau que l'image. Un discours et la parole ont les mêmes statuts qu'un paysage ou qu'un joli visage. Paroles et images bénéficient du même statut. Seulement le cinéma a le pouvoir de fixer au même temps l'image et la voix, vous dites. Enfin, vous affirmez encore, un film n'est pas la réalité, il n'est pas la vie, il est un fantôme de la vie. Mais d'ailleurs, la vie n'existe pas, vous dites. Elle aussi est un fantôme. Pour lutter contre l'oubli, l'homme a besoin de répéter ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté dans la réalité de la vie. Hein? Quelle curieuse définition de la vie que vous donnez. Hein? Ça me rappelle, en passant, j'ai lu une fois une phrase qui dit « La vie, un livre écrit il y a tant d'années et lu une seule fois » de Schopenhauer. Et vous dites encore, on peut représenter sur la scène, sur scène, au théâtre, ce qui s'est passé dans la vie. Mais, ces représentations sont fugaces. Car quand elles sont terminées, il n'en reste aucune trace. Seulement le cinéma, au contraire, fixe la représentation. Hein? Et il fixe la représentation de la vie et de la voix. Hein? Ça, c'est assez insolite, disons, pour un metteur en scène, surtout aujourd'hui, dans un univers où on privilège l'image, etc., l'effet que vous êtes un metteur en scène qui met au même niveau la voix humaine et l'image, c'est-à-dire la voix qui sort de la bouche de l'acteur, la vive voix, comme on dit. Alors, qu'est-ce que c'est la voix d'un acteur, d'un comédien dans votre cinéma, qu'est-ce que représente la voix humaine?
La voix humaine, c'est Molière. La voix sert pour expliquer les choses et le penser. C'est à travers de la voix. Mais il y a un autre côté très curieux, c'est que l'autre que je viens de dire, il n'y a pas de penser sans une image. Et si nous regardons bien, soit la parole, soit l'oreille, soit les yeux, soit le nez, tout se réduit à quoi? À l'image. Tout se réduit à l'image. Si on bat la porte, on comprend que c'est la porte. Oh, attends, hésite, ce bruit, qu'est-ce que ça? Parce qu'on ne peut pas formuler une image. Mais tout réduit l'image. Mais l'image, c'est ce que représente la parole. Si je dis chaise, je ne vois pas une table. Si je vis en verre, je ne vois pas une bouteille. Et alors, La parole, c'est le privilège que les hommes ont pour s'entendre, même avec des langues différentes. mais c'est intéressant. Et c'est pour ça que la littérature, quant à moi, c'est l'expression la plus riche de l'être humain. Parce qu'il peut dire ce qu'il veut sans représenter rien, sans avoir nécessité de décor, ni de lier de rien, seulement la mémoire. Et toute la fiction, c'est un résultat de la mémoire. La mémoire, c'est fondamental. Sans mémoire, n'a rien. Si nous perdons la mémoire, nous ne savons qui nous sommes, où sommes-nous et pourquoi là sommes. Sans rien. La mémoire, c'est l'histoire et les mémoires sont fondamentales. Aujourd'hui, on met en avant, faire de nouveau et tout ça, mais il n'y a pas de nouveau sans le vieil. Il faut avoir la vieille pour faire le nouveau. Et c'est la tradition. Tradition, c'est important. On ne peut pas oublier. Et la littérature permet de tranquillement, chez lui, écrire tout ce qu'il a vu, pensé, réflexionné, tout ça, et dire ce qui se passe. Et ce qu'il veut même dire avec ce qui se passe. Et après se répéter en dialogue, oui. En scène, magnifique. Tandis que nous, moi-même, cherche de faire beaucoup de plans, beaucoup oui. De scènes, dans le sens de trouver une qui soit bonne, oui. Vraiment bonne. Parce que, au théâtre, par exemple, si nous rappelons Hamlet, nous pensons, oui, c'est Hamlet, mais ce n'est pas l'histoire complète. Il y a une chose qui reste bien, c'est que je cherche qu'il y a un plan au moins qui c'est bien, qui reste comme référence. Dans Hamlet, il y a une chose qui reste. Comment to be or not to be. C'est Hamlet est tout là. To be, not to be, c'est suffisant.
Oui, le silence est la mort, la parole est la vie. Hein? C'est ça. Et être est parler aussi. Et donc, vous disiez.
Oui. Le silence, c'est le temps de penser.
Oui. Mais il y a un silence aussi.
On peut parler et penser en même
il y a,
temps.
Oui, il y a un silence tombal aussi. Hein, il faut. Mais vous dites donc l'écriture littéraire ou l'écriture cinématographique, mais avant tout la parole. Hein? C'est la parole qui est. Et donc ça rentre, disons. En regardant certains de vos films, il y a par exemple des. Vous placez des acteurs, vous les mettez en place, et ils parlent. Devant la caméra, d'une manière ostensive, comme s'ils doivent montrer que le mot, la parole qui sort de la bouche, hein, a un pouvoir, comment dire, de création presque. C'est-à-dire, on a la sensation avec certains de vos films que vous, ostensivement, vous c'est comme, c'est-à-dire, c'est la vieille tradition. De la culture occidentale que vous remettez en place, c'est-à-dire la parole avant l'écriture. Je ne dis pas l'écriture cinématographique, mais même l'écriture minérale, l'écriture, c'est la parole qui c'est le mythe orphique, c'est le Christ qui parle. Christ n'a pas besoin d'écriture, le Christ n'écrit pas, il parle. Socrate n'écrit pas, il parle. Et donc, la parole, oui. Et après, c'est comme ça que c'est la parole qui a ce pouvoir de créer. Et après, on fait l'écriture comme nous voulons. C'est la peinture, ou la littérature ou le cinéma, mais la parole vient avant. C'est ça que vous dites ?
Mais la littérature, elle ne se superpose pas.
Non, non.
Et l'image superpose la parole. C'est-à-dire, si on traduit la parole pour image, parce que la parole, c'est l'image, tout est réduit à l'image. Si on fait de la parole image, on superpose image sur l'image. Et c'est une confusion. Et comme ça, en parlant d'une image, on voit une chose et on voit une autre chose avec les paroles, sans perturber l'image qu'on voit et sans perturber l'image qui nous donne la parole. C'est magnifique. Pour ça, le cinéma est fille de la littérature et du théâtre. Incroyablement, c'est fille de la littérature et du théâtre. Parce que la littérature et le théâtre sont avant. Et le théâtre, c'est le premier qui... Nous sommes, disons, une synthèse de tous les arts. Et le cinéma se complète et amplie cette synthèse de tous les arts.
D'accord. On reviendra alors à cette relation entre, le cinéma et la littérature. Mais comme on parlait de la parole cinéma, etc. J'ai pensé à, par exemple, à certains pays. J'ai dit l'Italie parce que c'est mon pays, mais ça se passe aussi en Espagne et en Allemagne. Et ça vient d'un pacte. Peut-être on ne le sait pas tellement bien, le doublage. Dans ces trois pays, tous les films sont doublés d'une manière implacable. Et ça vient d'un pacte que Franco, Hitler et Mussolini ont fait en 1939, parce qu'il y avait des raisons nationalistes, disons, etc., où dans chacun de ces pays, le peuple devait parler l'italien, l'allemand et l'espagnol. Bon, alors moi, je suis le doublage, ça me perturbe personnellement beaucoup, hein, parce que vous voir un comédien,
ça vous gêne?
Non, ça me gêne beaucoup.
Moi aussi.
Oui, alors on fait un appel pour à l'Europe, si elle peut protéger, parce que je pense que c'est un droit d'auteur qu'il faut protéger. Il faut protéger un comédien, parce que on peut pas utiliser une personne, un corps, en lui mettant dans sa bouche la voix d'une autre personne.
Oui.
Ça, c'est contre nature. C'est pécaminose. On ne peut pas le faire. Un appel à l'Europe, on le fait.
Hein? Mais on peut demander à Piccoli, peut-être, parce qu'il est un acteur.
Oui.
Il ne laisse pas
d'ailleurs,
se doubler.
Oui, d'ailleurs.
Jamais.
D'ailleurs.
La main.
Oui, je voudrais revenir un peu plus tard à ce magnifique film. Totalement français, je pense. Je rentre à la maison que vous avez faite avec
oui,
Piccoli.
Un film oui. Formidable.
Oui. Mais,
grâce à lui.
Oui. D'accord.
Je ne sais pas s'il est par là.
Il est par là.
Ah oui.
Un applause à Piccoli. Vive. Vous avez une production, une œuvre, et vous avez une œuvre énorme, parce que bon, il y a des grands cinéastes qui sont des grands cinéastes et qui ont une œuvre, disons, limitée quand même. Mais vous êtes un grand cinéaste avec une œuvre énorme, hein, d'une grande fertilité. S'il vous plaît. Hein. Vous appartenez à la famille d'un Bergman, d'un Antonioni, d'un Drey, etc. Enfin, je me permets de vous dire que vous êtes un Balzac du cinéma, hein, Manuel. D'accord?
Non. J'ai trop de respect pour Balzac.
Il est très difficile de parler de tous vos films, bien sûr. Il faut que je fasse nécessairement un choix, et alors j'en profite en tant qu'écrivain, hein. Je prends tous les films, beaucoup de vos films qui sont inspirés par une œuvre littéraire. Benilde ou Virgin Mai, 1974. Benilde ou la Vierge Mère, du texte de José Rejo, que vous avez vu au théâtre en 1947.
Non, je n'ai pas vu au théâtre.
Ah non?
Non.
Alors quelqu'un m'a menti.
Non, quand elle a représenté, je n'ai pas... c'était à Lisbonne, je suis à Porto et je n'ai pas lu.
Alors?
Non.
Vous avez l'avez lu donc le texte théâtral?
Non, je savais qu'elle est passée là. Maria Barroso.
Si.
Était une actrice qui fait le rôle. Oui. Figueiredo, l'acteur.
Oui.
Et je l'ai choisi pour faire le rôle de jeunes personnes parce qu'ils ne sont pas déjà jeunes.
Oui.
Alors, l'autre personnage, mais parce que Reggio, il a aimé beaucoup la représentation de sa pièce-là.
Mm-hmm.
Elle aimait des questions, comme toujours, parce qu'il y a des questions religieuses,
oui.
qui sont religieux, ceux qui ne sont pas religieux, mais la question, c'est la même. La question, la vis-à-vis, c'est la question religion ou non religion, parce qu'il y a le médecin qui est un scientiste et il n'est pas un religieux.
Oui, bien sûr.
Mais Einstein, c'est un scientiste et c'est religieux. Et un juif portugais, Spinoza, il a dit que la conception de Dieu, c'est l'univers total. Et Einstein est de la même opinion.
Et c'est très beau ce que vous dites.
Ah oui, c'est de la même opinion, c'est de l'univers. Si l'univers est le Dieu, est le créateur, est la nation. Nous faisons partie de Dieu. Ça explique des génies de quelques-uns, peut-être. Mais moi, j'ai eu une éducation catholique. Ma famille, mon père, ma mère sont religieux. Et j'ai reçu, je suis éduqué dans un collège de jésuites à La Guardia. Et il faut croire. Reggio a un problème, c'est quelqu'un qui a un sentiment profond religieux, mais il met la doute, il tombe dans la doute, il voulait un signal, parce que si ce j'aime et je voulais, et ce, le bon Dieu savait, parce qu'il savait tout, savait ça, pourquoi il ne me donne pas un signal? Il n'a pas reçu un signal. Alors je crois, non crendo. Je crois, ne crois pas. Comment se dit? Je crois, non crendo.
Si, je crois en y croyant pas, je crois.
Oui, c'est là. Ah ouais, et son livre de pensée, le dernier livre qu'il n'a pas terminé, parce qu'il est mort. Et il m'a dit, quand il est malade, avant de mourir, Il dit, c'est peut-être un signal que je ne laisse pas terminer le livre. Ah. Parce qu'il voulait terminer la vie avec une vision religieuse. Parce qu'il voulait penser que le christianisme, maintenant, a perdu sa force qu'il avait dans le temps où les chrétiens sont lancés au cirque, mm-hmm. avec les lions et tout ça. Et c'est une foi très forte mm-hmm. que j'ai trouvée à Macédonie. Mm-hmm. Ils sont orthodoxes. Et c'est une joie. C'est un peuple avec une joie énorme, une foi totale. Et je lui ai demandé qu'il doit venir à Portugal. Je lui ai dit, allez porter cette joie et cette croyance qui manque beaucoup au Portugal.
Mais dans votre film, vous prenez tous les points de vue. C'est très beau, le film. Et donc le médecin qui est un positiviste, etc. Et, et donc, et vous laissez suspendu les jugements, vous laissez l'ambiguïté, c'est très beau. Mais vous aussi insinuez les doutes. Votre film aussi, c'est quelque chose, c'est l'ambiguïté, c'est la non-résolution du fait qui fait un film très, 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 très beau. Et l'autre film auquel je me réfère, c'est Amour de perdition, hein, 78, du roman de Camillo Castello Branco, qui est le chef d'œuvre de la littérature romantique portugaise, hein, un roman sur l'amour-passion. Et après ça, vous faites Francisca, du roman Fanny Owen, de Agustina Bessa-Luís, qui est une grande amie à vous, je pense,
oui,
une écrivaine contemporaine.
Malheureusement, elle a tombé malade, continue encore. C'est terrible.
On lui envoie notre pensée amicale.
On parle, oui. mais on va interrompre un peu.
Oui, oui.
Agustina Bessa-Luís, c'est une figure très curieuse. Il disait, par exemple, quand on fait une entrevue, et à certains moments, il demande, un peu dehors du contexte de l'entrevue, que, ça part pour la prendre de surprise, mais, qu'est-ce que vous trouvez plus sexe? Qu'est-ce que vous trouvez plus sexe? Et elle répond immédiatement, la religion.
Elle est méchante d'une manière
mais cette chose paraît un scandale mais il n'est pas un scandale parce que on peut c'est-à-dire que aimer la religion et aimer la science c'est la même chose, c'est aimer la création, c'est aimer l'univers. Et dans l'univers, sa continuité, c'est le sexe. L'univers, c'est sexe. Les plantes, les animaux, tous, c'est sexe. Alors, elle n'est pas dehors du schéma.
C'est vrai, non, mais c'est beau, c'est ce que vous dites. Il y a... je suis d'accord. Parce que, d'ailleurs, j'aime beaucoup vos mots et... Je me suis rappelé maintenant d'un passage d'un poème, du poème Les feuilles d'herbe de Whitman, où il y a l'éloge du sexe, où il dit « Le sexe contient tout. Il contient aussi l'univers, la passion, le flair, etc. Tout, le sexe hein, contient tout. » Et il détermine tout. Après, vous avez fait Le soleil de Satin, de Claudel, oui. Inspiré à Claudel, hein? Ous Cannibais, Les Cannibales, un roman fantastique d'un écrivain du 19e siècle, beaucoup de films liés, inspirés à la littérature. Il s'appelait Álvaro de Carvalhal, non le...
Álvaro Carvalhal. Álvaro Carvalhal. C'est un écrivain, c'est Reggio qui a découvert
cet écrivain qui était au 19e siècle. Oui.
Et il fait un livre de contes, des contes assez scabres, comme là. Et elle a dit, avant de mourir, justement comme ce grand écrivain, je ne me rappelle pas le nom.
Ou portugais?
Non, c'est... c'est que fantastique. Il a donné qu'il ne voulait pas que prenne son livre, qu'il publie son...
Kafka?
Kafka, oui. D'accord. Donc, comme Kafka, il a dit...
brûler tout.
Un ami, surtout, ne laisse pas publier les choses. Mais il n'a pas, ni Kafka, ni lui, n'a pas détruit les choses avant de mourir.
C'est un signe, comme dirait José Rege.
Et bon parce signe. Qu'il y a des histoires pour le temps, oui, c'est parce que le temps change et la morale change un peu. Oui. La morale ou la éthique, ça s'adapte aux circonstances. Alors, c'est un valeur, quand même. Oh, sera un valeur. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Que pensez-vous à ça?
Je pense que, bien sûr, d'ailleurs, la société est toujours en avance sur les codes pénals, normalement. Il y a encore dans les codes des articles qui regardent, disons, des manifestations qui...
Un attravant, c'est pas suffi.
Oui.
Parce que un attravant dans le mal ou elle est avant dans le bien.
Oui, mais
c'est la différence. Un attravant, pour ça, c'est comme ça la parole.
Oui.
La parole moderne. Oui. Aujourd'hui, prend le sens de choses bonnes.
Oui.
Non,
mais
c'est moderne, c'est actuel. Oui. Mais peut être mauvais ou bien.
Oui. Il y a la double face de la médaille.
Oui, mais on peut retirer une face sans retirer la monnaie.
Non. Mais vous savez, il y a des enthousiastes de la modernité. Je pense au début du siècle, les enthousiastes, trop enthousiastes comme Marinetti, le futuriste, etc., qui n'ont jamais pensé à la face.
Et ceux qui vous aiment, qui m'aiment moi, qui aiment Piccoli, et d'autres choses comme ça.
Oui, mais il faut aussi, il faut regarder aussi l'autre face.
Il y a une place au plus large, plus courte, mais là, il y a quand même une place pour chacun.
Ouais. Mais je pensais au fait que vous avez un olfam sensationnel, Emmanuel, parce que par exemple, s'intéresser au Canibaïche, à ses livres, qui était une petite découverte d'un cercle intellectuel portugais, très, 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 très petit, disons. Et vous avez immédiatement compris qu'il s'agissait d'un bon écrivain oublié et vraiment... Tac, vous arrivez sur les sujets et vous faites un film en 88. Après, vous faites Le Val d'Abraham. Là, vous faites un très, très curieux, très, très curieux avec votre ami Agustina Bessa-Luís.
Oui,
oui. Parce que...
Je voulais faire Madame Bovary.
Ah.
Je voulais faire. Et le producteur m'a dit, en France, à l'époque,
il dit, mais ça, Paolo Branco, era Paolo Branco.
Sì, Paolo Branco. C'est trop cher, c'est 5 fois plus cher qu'en faire au Portugal. Et la recomposition et tout ça, il y a d'autres quand même qui vont faire la chose, mais c'est différent. Il fait une chose, je fais une autre. Parce que Moyen Âge, et il y aura la Renaissance. Tous les peintres peintent la même chose. Ouais. Et tous sont différents. Oui, tous sont différents. On ne sait pas, comme dit Reggio, c'est que la vraie personnalité, c'est la personnalité de l'artiste. C'est cela qui repose l'originalité. On ne sait pas en faire différent. C'est pas la même chose, non? Parce qu'il n'y a pas même le différent. Il n'y a aucune figure, aucun dessin qui n'existe déjà dans la nature. Et on peut faire quelque chose hors de la nature parce que nous sommes nature quand même. Comment faire une chose dehors de nous? C'est impossible.
Manuel, vous avez donc fait vraiment une chose très très intéressante avec ça, parce que là, c'est plus moderne, c'est post-moderne, vous direz, une critique, disons, d'aujourd'hui. Parce que, alors, on ne peut pas faire un film de Madame Bovary, parce que ça c'est trop cher, et de Georges Franck, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on pense? On demande à Agustina Bessa-Louis d'écrire un roman inspiré à Madame Bovary de Flaubert, et après, vous faites un film inspiré au roman d'Agustina Bessa-Louis. Ça, c'est un parcours magnifique. C'est vraiment le Val d'Abraham de 93.
C'est le plus fort. Je rentre à la maison, c'est le plus fort. Et c'est qu'il y a bien un recueil plus large. Et ensuite, c'est Val d'Abraham.
Val d'Abraham, oui. Mais d'ailleurs, il méritait bien, ce film, l'attention du public et de la critique, parce que c'était quelque chose de vraiment spécial. C'est un film très, très spécial. Même l'idéation et la conception du film. Et la réalisation, après, c'était un très beau film, très, très, très spécial, vraiment. Et finalement, c'est la lettre qui a inspiré à Madame de Lafayette, à la princesse des Clèves. Donc, vous avez fait, je ne sais pas combien sont maintenant, donc 7 ou 8 films inspirés à la littérature. Bon, je vous pose une question. Je ne veux pas vous poser les deux questions qui seront les sujets des deux tables rondes vendredi et dimanche. C'est-à-dire, une table ronde est l'adaptation, une trahison, et la deuxième sera littérature et cinéma. Qui influence qui? Je voudrais vous proposer une troisième question, mais je ne sais pas laquelle. Donc, je vous laisse... À vous, Manuel, de parler, pour que, si vous voulez faire une conclusion, de parler de l'argument cinéma et littérature.
Mais nous ne parlons pas d'autre chose.
C'est une conclusion géniale. Alors.
Parce que.
Alors.
C'est ça.
Alors. Dites-nous quelque chose que vous voulez nous dire.
C'est vrai que...
Au public qui est ici, au public français.
La littérature, ça repose tout dans la littérature, non? Ça a commencé pour faire des signaux, pour représenter quelque chose, non? Et là, on arrive à la parole. Oui. C'est en avance... très rapide, non? Oui. Très facile, la communication. La difficulté, parce que c'est la tour de Babel, c'est la grande difficulté. Mais ça a fait justement pour faire difficile les choses. Et ça, c'est important. C'est cet mouvement aujourd'hui de l'Union européenne. Mm-hmm. C'est vrai que les artistes n'ont pas à avoir avec le futur des choses, de la vie, des choses. Les responsables sont les politiques. C'est les politiques qui donnent la loi et qui font le meilleur pour avoir un bon futur. Mais quelquefois, il sort mauvais. Parce que le futur, c'est énigmatique. Personne ne le savait pas. Merci.
Oui, le futur est énigmatique. Un linguiste français disait toujours une chose. L'inévitable n'arrive jamais. L'imprévu, toujours.
Oui.
C'était Benveniste. Mais je vous dis une chose pour terminer. Je pense que ça ne vous surprendra pas. Récemment, un jeune écrivain portugais, un débutant au début, m'a envoyé un livre. Je l'ai lu avec intérêt. Et en parlant avec lui, j'ai dit, vous savez... votre livre, il est un jeune homme, votre livre m'a rappelé quelque chose, le cinéma d'Emmanuel d'Oliveira. Il m'a dit, bon, peut-être il m'a influencé.
Et quoi?
Il m'a influencé, et l'influence.
Ah oui. Vous savez, mais... la littérature, j'aime pour faire mes films, j'aime beaucoup la littérature qui soit bien littéraire, pas comme Hemingway qui fait très influencé pour le cinéma dans sa écriture. Je n'aime pas les films qui sont proches du film, du découpage. Non. J'aime la difficulté tant qu'il est plus... comme les films, comme les textes d'Agustina, contente qu'il est plus littéraire et abstrait, ça force.
Mais là, vous avez,
vous avez parlé
d'un écrivain comme Hemingway, qui était un écrivain qui est notamment influencé par le cinéma, vraiment. On ne peut pas comprendre Hemingway sans le cinéma. Et d'ailleurs il a un récit de Hemingway, des killers, les tueurs, qui ont été... on a fait deux films. Deux beaux films, les deux. Un des plus récents, Danzig, et l'autre plus ancien avec Burt Lancaster. Mais... c'est très difficile de faire un film tiré de la littérature qui imite le cinéma. C'est ça le paradoxe. Et sur ça, il y a un magnifique essai qui touche la question de Milan Kundera, dans le Testament trahi, parce qu'il fait une analyse d'un récit de Hemingway qui s'appelle « Collines comme des éléphants blancs ». Qui est vraiment, disons, on ne peut pas comprendre ces récits sans le cinéma. Et Kundera l'examine avec une habileté énorme. Alors, c'est vrai ce que vous dites. Pour les cinémas s'inspirer à la littérature, il a besoin d'une littérature qui ne s'est pas inspirée au cinéma.
Oui.
Je pense.
Et moi aussi. La même chose, parce que c'est ça. J'aime beaucoup la simplicité, la clarité. La simplicité, comme disait quelqu'un, que la simplicité des Grecs et le réalisme de la Renaissance. Et c'est parce que la tragédie grecque sont très profondes. Alors, elle doit être claire et simple pour comprendre la profondeur. si on complique, hermétique, qui fait des choses compliquées, on arrive à la fin. C'est, ça, c'est important. Je suivis cette idée de faire simple. Et j'aime autre chose qui disaient les Grecs sur les tragédies. Au cas de ce qui tue les fils, comment ça s'appelle, cette femme qui tue les fils.
Médée,
justement. Médée, il dit, Médée, tue tes filles. Mais en disant ça, on pense, pourquoi elle doit tuer ses fils, la mère, tuer son fils. Et on dit pour vengeance de l'amant qui a marié avec la princesse. Non, c'est pour ça, c'est pas pour ça. C'est que à l'époque, les princes ordonnent de couper les tendons des mains et des pieds pour qu'ils ne passent pas. On ne peut pas se venger. Alors, pour éviter cette énorme, terrible tragédie à ses fils, elle l'a tué. Alors, tous tes fils, mais pas en scène. Et c'est important, pas en scène. Aujourd'hui, on fait tout en scène. Ce qui est privé et ce qui est plus cruel. Se met en scène. Il faut prendre les bonnes recettes. Simple. Tout est fait, mais pas en scène.
Manuel, parler avec vous a été vraiment une grande, grande joie. Ça a été d'une grande beauté. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Merci, Manuel.
Non, c'est pas vous.
Merci.
Merci beaucoup.